Bonjour. Alors, je pense que la question s'adresse, s'il faut l'adresser à quelqu'un, hein, à Yasmine, puisque je crois que c'est quand même elle qui a un peu développé le profil sociologique de certaines classes. Mais ça peut être aussi la demoiselle qui a présenté. Mais je n'ai pas de préférence féministe, hein, soyons clairs. La personne qui sera la plus compétente à répondre, voilà, ou plusieurs. Donc, ma question est... est-ce que vous disposez d'analyses fines sur les enseignants? Moi, j'aimerais bien savoir, justement, aussi historiquement, d'ailleurs, comment les enseignants se situent dans les votes. Et je ferai une différence, mais peut-être que j'ai tort, vous me le direz, entre les enseignants, alors disons les instituts, profs des écoles, les profs de collège, lycée, et les enseignants du supérieur. Avez-vous quelque chose à nous dire là-dessus, sur l'évolution ou la régression ou la stagnation? Je voulais juste aussi dire quelque chose. Monsieur, tout à l'heure, qui avait parlé du vote FN, qui est un vote protestataire, c'est un vote comme... voter FN, c'est protester moralement contre les assistés, les délinquants, la racaille, etc. Je pense que vous n'avez pas mentionné quand même les migrants. Alors, bien sûr, peut-être que les gens qui votent FN les classent dans les assistés, mais c'est quand même assez spécifique, parce que les migrants, c'est l'idée de la sécurité que vous avez, sur lequel vous êtes passé assez vite, mais enfin, c'est certainement ça. Et puis, c'est peut-être quand même aussi l'idée d'un racisme culturel et des idées qu'il faut un peu approfondir aussi. Hein, les migrants sont aussi considérés par les gens qui votent FN comme de la racaille, un peu gênant, qui apporte des terroristes, etc. Donc, il faut les mentionner comme tels, à mon avis.
Donc non, je n'ai absolument pas en tête les données précises sur les enseignants. Malgré tout, par rapport à notre discussion, ce qui peut être intéressant de souligner, c'est que en termes d'origine sociale, le monde enseignant s'est éloigné des classes populaires au fil de ces dernières décennies. L'origine sociale des enseignants est quand même de moins en moins ouvrière et employée. Et ça, c'est important à avoir en tête quand on pense au système scolaire aujourd'hui. Bien sûr, il y a des enseignants qui sont issus des classes populaires, mais les transformations des concours, notamment, et tout un tas de processus ont plutôt fermé ces groupes. C'est paradoxal, puisque par ailleurs, les études s'allongent, etc. Mais ça dit aussi des choses du maintien de tout un ensemble de frontières sociales aussi au sein du système scolaire. Et aussi dans le monde militant, il y a pu y avoir des proximités entre enseignants et ouvriers, employés au sein de partis, de syndicats, de mouvements sociaux divers, qui sont moins fréquentes aujourd'hui. Et ça aussi, c'est important, je pense, avoir en tête pour la discussion. Oh, il existe plein d'études, mais je vais vous dire des bêtises, donc je préfère rien dire.
À propos du vote FN, oui, vous avez raison, hein, bien sûr, de dire qu'il y a une forme de... Ça manifeste aussi une forme d'hostilité aux migrants, certainement. Mais j'aurais tendance à penser que les formes de cette hostilité aux migrants, dans le cas des classes populaires, n'est pas tant culturelle, à mon avis, sur les histoires d'identité et tout ça, je ne crois pas que ce soit vraiment le problème, que moral, en fait. Très souvent, ça s'exprime en termes moraux, quoi, je suis désolé, mais enfin, c'est ce que, en tout cas, moi, je rencontre. C'est sous la forme que j'ai indiquée très vite, trop vite, bien sûr, d'une protestation contre les assistés, hein, ceux qui cumulent les allocs, etc., qui ne foutent pas grand-chose, donc ça c'est une protestation de ce type-là. Elle est aussi une protestation contre les incivilités, comme on dit dans les journaux, ou contre la délinquance de façon générale. Et donc ces deux thèmes-là sont très 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 payants, et très souvent effectivement ils sont attribués aux migrants. Hein, c'est-à-dire qu'on attribue l'assistanat, on attribue la délinquance aux migrants. Bon, ça c'est un fait. Alors vous voyez, je dis pas que c'est un fait avéré, hein, mais c'est en tout cas la perception qu'ils en ont. Donc vous voyez, ça s'amalgame avec. Bon, il y a aussi effectivement sans doute le terrorisme machin, etc., qui est sans doute intervenu depuis aussi pour dire oui mais c'est dangereux ces gens-là. Qui se rajoute à ça. Ce qui se rajoute aussi sans doute, à mon avis, par rapport à ce thème-là, c'est aussi le thème de la concurrence pour l'emploi. Hein. Je pense qu'il y a aussi un autre thème, là, pour le coup, très présent, hein, aussi, sur l'hostilité aux migrants, c'est ceux qui viennent prendre notre boulot, quoi. Bon, et tout particulièrement le coup des travailleurs détachés. Ils disent, c'est les concurrences, perçues comme illégitimes, hein, dans ces situations de pénurie d'emploi. Donc on retrouve ce truc-là qui est classique, hein, c'est d'ailleurs organisé d'une certaine façon comme tel, hein, pour mettre en concurrence les classes ouvrières de tout tous les pays, concurrencez-vous, quoi. C'est un mot d'ordre capitaliste très efficace. Hein, et bon, voilà, ça marche, effectivement, on peut dire ça marche. Oui, de fait, c'est un autre thème, là, effectivement, qu'on peut également retrouver, donc qui, au fond, contribue à réactiver constamment un très très vieux clivage. Vous savez, celui que Marx décrivait comme le clivage entre le prolétariat et le lumpenprolétariat, entre les ouvriers établis et les ouvriers outsiders qui débarquent. Enfin, bon, ça peut se dire de différentes façons. Je pense que, bon, hein, mais il me semble que le thème central sur lequel a joué le FN et la droite, hein, classique, la droite sarkozyste, ils font pas autre chose, hein, c'est tout à fait la même chose, quoi. Ils travaillent à creuser ce clivage entre le haut et le bas des classes populaires. Et donc, et une des modalités de ce clivage peut s'exprimer sous sa forme la plus directement visible, justement, entre ceux qui sont là depuis longtemps, établis, et ceux qui débarquent, les immigrés. Quoi. Vous voyez, il se trouve que, bon, ça, voilà, ça, à vue de nez, ça a l'air d'être pareil. Quoi. Bon, voilà.
Oui, moi je voudrais revenir parce que quelques-uns d'entre vous ont parlé des éduqués, si je résume un petit peu, d'une volonté scolaire, quelque part on retourne à l'école quand on se politise ou qu'on s'engage. Moi c'est quelque chose qui m'interroge parce que quand on regarde, il y a la lutte des sans-papiers en France depuis une vingtaine d'années, c'est pas du tout des gens éduqués qui sont dans des luttes. Quand on regarde les luttes en Inde, des paysans, c'est pas du tout des gens éduqués. En Amérique latine, ils ont gagné des choses en étant non éduqués sur l'eau, en revendiquant une eau publique contre les multinationales. Enfin, je veux dire, moi, je m'interroge entre cette dichotomie qui est faite entre un nécessaire besoin d'éducation avec les luttes. Et par contre, je trouve ce que vous avez dit sur la forme partie, les débats où on s'engueule sur des points virgules, etc. Ça, je comprends très bien que ces formes-là dégoûtent complètement les gens qui ne sont pas habitués déjà à l'écrit, etc. Mais comment replacer ? Enfin, je ne sais pas comment formuler ma question, mais j'ai l'impression que là, il y a peut-être un hiatus, là, voilà.
Sur cette question, je distinguerais très clairement, effectivement, des dynamiques de mobilisation sur des enjeux concrets. Et je pense que ça joue énormément la dimension du concret, de l'immédiat, dans la politisation des classes populaires. Du militantisme partisan, qui est un militantisme beaucoup plus spécialisé. Si je caricature, en gros, adhérer à un parti, c'est avoir un avis sur tout. Et c'est quelque part le principe même du parti, c'est qu'il va donner un avis général sur la marche à suivre. Après, du coup, ça explique évidemment que le fonctionnement des partis est plus élitiste que le fonctionnement d'une mobilisation sur des enjeux immédiats où il y a beaucoup plus, même si les militants peuvent être présents, où ça parle beaucoup plus à la réalité quotidienne. Après, malgré tout, il ne faut pas idéaliser. Enfin, moi, je suis plutôt partisan d'une optique, vous avez bien raison, hein, le fait, évidemment, ce que j'entends aussi dans votre question. Enfin, c'est pas parce qu'il y a une forme, parce que des luttes ont du mal à mobiliser largement, qu'elles sont illégitimes. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais par contre, pour moi, il y a un vrai problème qui se pose dans toute lutte. C'est des mécanismes qui reviennent de manière quasi systématique, où ça va être en général les personnes qui ont le plus de ressources, les moins dominées socialement, et ça vaut pour les classes populaires, mais ça pourrait aussi valoir pour d'autres groupes, comme les femmes, comme les personnes racisées, comme les personnes handicapées, ainsi de suite. En général, plus vous êtes en bas dans l'échelle sociale, et plus c'est compliqué de se mobiliser. Parce qu'il faut du temps, parce qu'il faut de la confiance en soi, parce qu'il faut un sentiment de légitimité, parce qu'il faut ne pas avoir peur du lendemain. Et c'est des processus qui, pour moi, doivent être pris en charge par les militants. Enfin, c'est aussi aux militants d'interroger. Ouais, c'est aux entre. J'entendais militants au sens large. C'est il faut s'interroger sur l'inclusivité sociale et autres de nos mouvements.
Juste pour rebondir aussi. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec la différence que fait Raphaël entre mobilisation et activité partisane. C'est évidemment pas du tout la même chose, y compris en termes de temporalité. C'est-à-dire, mobilisation, c'est quand même, bon, sauf cas particulier, plus ponctuel, plus localisé, etc., par rapport à une activité partisane, routinière, routinisée. Voilà, ce que tu décris très bien. Effectivement, mettre les virgules au bon endroit, s'emplumer entre spécialistes sur telle ou telle question. Mais il reste que, ça, même au sein du groupe ouvrier, par exemple, on peut voir des différences très fortes dans les trajectoires des militants communistes entre des militants qui sont moins, qui ont eu une scolarité plus courte, qui sont rentrés plus tôt au travail, qui ont été d'abord syndiqués, qui sont vraiment beaucoup plus ancrés dans la vie d'atelier, d'usine, etc., qui, eux, vont pas vouloir devenir permanent du parti, etc., franchir des seuils, franchir, changer d'univers, finalement, pour devenir des intellectuels, des militants, donc des travailleurs intellectuels, quand d'autres qui sont mieux, qui ont eu une scolarité plus prolongée, qui ont d'abord été militants politiques, etc., vont, eux, être prêts à franchir ce pas. Parce qu'il y a des vraies différences dans les formes et les contenus de la politisation et dans le sens qu'on met dans l'activité politique, entre être militant sur le terrain, militant d'atelier, dans le syndicat, etc., et être professionnel dans un appareil politique. Et je pense que ça, c'est valable, j'en parle pour le Parti communiste, mais c'est valable pour toutes les organisations, en effet.
Bonsoir, merci pour cette conférence très intéressante. Moi, j'ai une question qui concernera plutôt les partis politiques. Moi, j'ai un livre en tête qui est un livre de Simone Veil avec le W, Note générale sur la suppression des partis politiques. Donc, moi, c'est un livre qui m'a vraiment marqué. Donc, je voudrais savoir ce que vous en pensez, ce que vous ne pensez pas que les partis politiques, au final, jouent un jeu d'endoctrinement, on va dire, déjà des militants, des adhérents, parce qu'à partir du moment où on sort de la ligne du parti, en principe, on est un dissident et on doit être éjecté. Donc, ma question, c'est concernant les partis politiques. Est-ce que, selon vous, ils ne sont pas le problème ? Merci à vous.
Épineuse question, dure à trancher comme ça d'un trait, qui est un aspect très déplaisant dans les partis politiques. C'est, je pense, que le fait que si peu de gens s'y engagent plaide assez pour le fait que, oui, il y a visiblement quelque chose de déplaisant, puisque les gens n'y vont pas. Par contre, là où je mettrai une nuance et quelque part je vais répéter autrement ce que j'ai déjà dit, c'est pas parce qu'on s'organise en dehors des partis qu'on arrête. Il y a d'autres formes militantes où il peut y avoir des formes d'élitisme social. Les militants engagés, c'est les études qui avaient été faites sur le mouvement altermondialiste, par exemple, les participants des forums altermondialistes, c'était exactement, qui était justement sur cette volonté compréhensible de faire autre chose que les partis politiques. C'est pas pour désespérer Biancourt, mais c'était exactement les mêmes profils sociaux. Vous regardez les profils des militants des mouvances, des squats politiques et ainsi de suite, c'est exactement les mêmes profils que les... Gérard dit pire, mais ça, c'est globalement les mêmes que celui des militants socialistes ou des militants NPA. Du coup, attention, il n'y a pas une solution. Mais pour moi, la question serait plutôt d'interroger les pratiques de militantisme plutôt qu'une grande forme telle que parti ou pas parti.
J'ajouterais juste un mot aussi. C'est pour autant qu'on soit attaché à une conception dominante de la démocratie représentative, au vote, des choses comme ça, on voit mal comment on pourrait réaliser ces processus-là, représentatifs, sans qu'il y ait quelque chose comme un champ politique, c'est-à-dire des options politiques incarnées dans des organisations, on peut les appeler partis autrement, mais ça ne change pas grand-chose, je crois. Donc, sauf à inventer, vous voyez, un processus politique, démocratique, si possible, qui ferait l'économie des partis, je vois mal comment on peut faire l'économie des partis. Alors, si je dis ça, c'est pas pour plaider pour les partis, mais c'est pas ce que je veux dire. Je pense qu'au contraire, je pense qu'on a assisté en France à une espèce de dégradation générale du champ politique, ne serait-ce que parce qu'ils sont devenus, ça c'est un point de vue, on pourrait dire d'électorat FN aussi, de dire ils sont tous pareils. Est-ce que c'est tellement faux, pendant tout un temps, est-ce qu'ils n'étaient pas tellement, vus de loin en tout cas, vus de loin à peu près tous interchangeables, c'est quand même un léger problème, pour faire un choix entre des gens dont on se dit je vois pas la différence, moi. Par exemple, un problème majeur de l'existence telle qu'elle est des partis politiques, c'est-à-dire du champ politique tel qu'il est organisé à travers des partis, c'est aussi que finalement, il offre ou non la possibilité à l'ensemble de l'électorat, donc toute la, avec la diversité des classes sociales, etc., dedans, de se sentir représenté, de trouver là-dedans une possibilité d'être représenté. Bon, je pense que c'est une qualité, en tout cas essentielle, collective d'ailleurs, hein, que doivent avoir voilà, cet univers des partis, que d'être tel que les gens puissent s'y reconnaître. Bon, s'il y avait une critique, à mon avis, évidente à faire, je crois, hein, au champ politique tel qu'il s'est constitué en France, il a dégénéré, d'une certaine façon, en France, au cours des dernières décennies, c'est justement entre autres ça. Donc voilà, ça pose des questions, hein, ça permet d'interpeller les partis politiques, c'est un des modes d'interpellation. Il y a celui que développait Raphaël de la professionnalisation politique, avec tous les problèmes que ça pose, parce qu'en même temps, bon, comment faire, hein, comment est-ce qu'on résout ce type de problème, c'est pas tout à fait simple. C'est-à-dire qu'on peut, à mon avis, je trouve qu'il est tout à fait légitime de critiquer les partis politiques, mais à condition d'avoir mieux à proposer, quoi. C'est tout à fait important. Voilà. Et je pense que ça, comment dire, ça justifie une critique qui propose quelque chose de mieux. Voilà, je pense qu'il faut trouver mieux. Voilà.
Oui, moi je voulais dire que je pense que c'est très important de porter une critique forte au fonctionnement des partis, mais qu'il y a plein d'autres éléments à avoir en tête pour comprendre aussi le degré d'éloignement des membres des classes populaires vis-à-vis du vote et des partis. Et je voulais prendre deux éléments qui me semblent centraux. En fait, si on s'intéresse aujourd'hui à d'autres formes d'engagement très classiques, hein, dans les syndicats, dans le monde associatif, on va trouver, bien sûr, parfois en minorité, mais pas toujours selon les contextes, des ouvriers et des employés. Dans le monde syndical, les ouvriers et les employés sont pas surreprésentés parmi les dirigeants, mais on les trouve. Mais parmi les militants impliqués localement, ils sont largement majoritaires dans beaucoup de contextes professionnels. Mais le syndicalisme se fait dans des conditions de plus en plus difficiles. Hein. Ça a longtemps été une matrice de politisation centrale dans les milieux populaires. Ça ne va faire que s'aggraver, d'ailleurs, avec les ordonnances en cours, qui vont considérablement affaiblir les droits syndicaux. Donc ça, c'est un élément très très important du tableau général qu'on décrit. Dans le monde associatif, il y a aussi dans les villages, dans les quartiers populaires, aussi tout un ensemble de formes de bénévolat et d'engagement populaire qui sont pas forcément très formelles, qui s'accompagnent pas forcément d'une grande visibilité, mais qui sont encore présents, hein, même si bien sûr ils se sont affaiblis, mais qui sont encore présents. Il y a beaucoup de travaux qui le donnent à voir, mais ces engagements syndicaux ou associatifs ou bénévoles qui renvoient tout un ensemble aussi de rapports de voisinage, de rapports au travail, et ils débouchent de moins en moins rarement sur des formes de politisation électorale ou militante, que ce soit dans le parti ou bien dans le cadre d'élections dans la vie politique locale. Et ça, je pense que ça tient pas que au fonctionnement des partis, ça tient aussi au fait que, par exemple, la vie politique locale dans les petites villes ou dans les villages, elle est devenue terriblement technique, et donc ça a été longtemps quand même l'accès à des postes d'élus municipaux ou de maire pour des ouvriers et des employés était quand même assez fréquente. Elle est devenue rarissime, y compris dans des villages, des petites villes très populaire, et ça tient pas que au fonctionnement des partis qui n'étaient pas forcément très présents dans ces contextes, mais à tout un ensemble de fonctionnements institutionnels qui sont vraiment délétères sur ce plan-là. Et puis pour en revenir au syndicalisme, les conditions de militantisme syndical se sont considérablement durcies, et donc souvent resserrées sur des urgences très fortes en termes de conditions de travail ou des conflits sur des fermetures d'établissements. Et donc c'est aussi tout un ensemble de processus de politisation qui existaient, qui sont plus possibles aujourd'hui, quoi. Donc il faut avoir aussi tout ça en tête avant de pointer du doigt les partis, et je suis d'accord pour le faire, mais je pense que ça suffit pas à comprendre l'ampleur de la démobilisation politique.
Je suis très contente que vous ayez évoqué l'engagement dans le secteur associatif, parce que je voulais justement parler de ça. Je pense que c'est quand même un phénomène nouveau dans la société, le développement très important du secteur associatif, et c'est une forme d'engagement pour beaucoup de gens qui ont été déçus par les partis traditionnels, et s'engager dans ce secteur, ça a aussi pour eux une dimension politique. La deuxième nouveauté qui m'apparaît, par rapport aux partis traditionnels que vous avez évoqués, puisque c'était votre objet d'étude, c'est la volonté de certains de créer une autre offre politique qui dépasse justement les clivages des partis traditionnels, je dirais entre guillemets. Bon, je vais évoquer un mouvement comme celui de la France insoumise. Est-ce que c'est actuellement un objet d'étude pour des chercheurs de s'intéresser à ce qui est en train de se passer? Mais moi, j'habite le 20e et j'ai bien compris que là, il y avait quelque chose de neuf qui est en train de se passer, à savoir que beaucoup de gens qui étaient complètement en dehors du champ du politique se réintéressent à ce champ-là et s'engagent. Donc voilà, je me dis aussi, il y a des choses qui sont en train de bouger, qui sont en train de changer. On a parlé de façon très désespérée hein, de la non-adhésion à des partis, mais il faut aussi voir ce qui est nouveau, ce qui est neuf, et ce qui, moi, me donne confiance, parce que je pense que, même si les gens ont été déçus, ils gardent un intérêt pour le politique. Ils ont envie d'autre chose, ils ont envie de construire autre chose, de découvrir des formes de démocratie aussi dans leur mouvement politique, autre que ce qu'ils ont connu dans certains partis dont ils ont été virés dans les conditions que vous avez déjà évoquées. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de neuf qui serait peut-être bon d'analyser.
On peut, hein. Non, je pense que c'est effectivement un phénomène intéressant, hein, que celui de la France insoumise. Bon, on peut dire, de façon un petit peu pompeuse comme ça, dire c'est une nouvelle offre politique. C'est une nouvelle offre politique en termes de discours, de programme, de contenu. C'est aussi une nouvelle offre politique, en tout cas, qui essaye de s'inventer en forme, en termes organisationnels, quoi, hein, qui essaye d'inventer autre chose. À la fois, bon, avec toutes les hésitations et les problèmes, à mon avis, très intéressant que ça pose. Hein. Je pense que, voilà, entre la formule antérieure, le parti de gauche et les insoumis, la formule nouvelle, bah voilà, bon, on ne sait pas très bien comment tout ça va se... Mais c'est intéressant à suivre. Je pense que c'est une enquête à faire. Je crois, à ma connaissance, personne ne l'a fait. Hein. Je ne connais pas de gens qui aient entrepris de travailler là-dessus. Moi, je connais ça d'un peu près, mais personnellement. voilà. Mais pas au-delà, quoi. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'invente, là. Ou qui essaye de s'inventer, disons, on verra, hein, je ne sais pas la suite, moi. Mais il y a quelque chose qui essaye, là, de s'inventer, qui a peut-être à voir, justement, avec une espèce de critique en acte de ce qu'a été la vie politique antérieurement sous la forme partisane telle qu'elle existait au PS, au PC, etc. Bon, on verra, quoi. Oui, c'est expérimentalement extrêmement intéressant, en tout cas, par rapport à la question. Je ne crois pas que... Je ne connais personne, moi. Je ne sais pas si mes collègues connaissent des gens qui travaillent là-dessus, mais je ne connais pas.
Merci. J'aurais une question à propos de votre intervention, Gérard Mauger. Vous l'avez conclu sur l'idée qu'on ne saurait déduire du vote FN d'une frange des classes populaires une adhésion au programme de ce parti. Pour ma part, et pour le dire vite, j'ai un peu de mal à concevoir qu'on ne sait pas, au fond, pourquoi et pour qui on vote. Lorsque l'on vote FN, donc, je voudrais vous demander comment va-t-on déduire et par quelle méthode un certain degré d'adhésion au programme et à l'idéologie ici du FN. Je vous remercie.
Alors, je ne prétends pas avoir répondu à tout. Hein. J'ai essayé d'indiquer que ce n'était pas une question simple. Voilà. Je voulais simplement indiquer que ce n'était pas si facile que ça de savoir quand quelqu'un vote FN, pourquoi est-ce qu'il vote FN. Voilà. Hein, voilà, ça va pas tout. Ça me semble, vous voyez, ce qui semble aller de soi, hein, en termes de voilà de représentation qui ferait que quoi. Grosso modo, pour faire vite, on pourrait dire les gens des classes populaires qui votent FN, c'est des beaufs, quoi. Hein, voilà, des beaufs racistes, machistes, homophobes, machin, etc. Voilà, quoi. C'est une espèce d'image préconstruite, une espèce de stéréotype qu'on est prêt à coller sur le mec qui vote FN. Voilà. Bon, alors. Voilà, je ne dis pas que ce stéréotype ne correspond à rien. Dans certains cas, on peut trouver des gens qui sont assez ressemblants. Mais quand on regarde, en fait, hein, il se trouve qu'on regarde, c'est ce que font les sociologues quand ils enquêtent. Et par exemple, ils nous disent vous avez déjà voté pour le FN? Ah ouais, je crois bien, oui, ça m'est déjà ça m'est arrivé une fois, enfin je me souviens plus très bien quand, mais j'ai déjà voté. Et à votre avis, pourquoi vous avez. Bon, vous voyez, on peut écouter ce que les gens disent, tout simplement, c'est pas très très compliqué quoi, pour répondre à votre question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est parfois surpris, voilà, en tout cas par rapport au stéréotype. stéréotype, à cette image préconstruite qu'on a dans la tête de ce que c'est qu'un électorat, un électeur FN des classes populaires, bah, voilà, c'est pas toujours exactement ce qu'on pensait, quoi. Voilà, on est surpris, voilà, c'est ça que ça sert de faire des enquêtes. Hein. Faire des enquêtes, c'est se laisser surprendre et s'apercevoir que bah, non, c'est pas exactement ce qu'on pensait. Donc, et après, c'est essayer de comprendre, quoi. Vous voyez, c'est à la fois écouter, donc voilà, pour répondre à votre question, il faut écouter, pour prendre la peine de poser des questions, écouter, puis essayer de comprendre ce que les gens disent. Voilà, ce qui n'est pas toujours tout à fait évident non plus. Mais je crois que voilà. Et c'est en faisant ce type-là de travail que on peut, voilà, essayer de répondre à la question, quoi. Mais pourquoi donc vote-t-il FN ? En sachant que, vous voyez, ce que voter FN veut dire est une question. C'est pas une, la réponse n'est pas inclue dans la question. Il faut savoir ce que ça veut dire. De la même façon, on pourrait dire, d'ailleurs, ce que voter Coco veut dire, quoi. C'est pas tout, est-ce que c'est tellement évident que ça ? Bah non, quoi, ça dépend, quoi, en fait. Hein, on s'aperçoit que ça dépend. C'est pas toujours la même chose. Donc voilà, c'est, vous voyez, l'intérêt de la démarche d'enquête, du travail... ouais, de sociologue, au fond, hein. C'est de tenter de répondre proprement à ces questions. Dans le petit livre que j'ai co-dirigé avec Willy Pelletier, là, bah, il y a, voilà, un ensemble, ça rassemble un ensemble d'enquêtes où, d'ailleurs, les réponses sont variées, hein. C'est pas, tout le monde donne pas les mêmes réponses parce qu'ils ont pas enquêté au même endroit ni auprès des mêmes. Du coup, ça donne un répertoire de réponses qui permet de comprendre que, voilà, le vote FN, ça veut dire voilà, le vote FN dans les classes populaires, entendons-nous, parce qu'il y a aussi le vote FN dans les beaux quartiers, hein, ça existe aussi. Donc, oui, il est facile d'ailleurs de comprendre à ce niveau-là que c'est certainement pas la même chose. Quoi, hein, quand c'est tous les gens à particules, et il y en a pas mal au FN, hein, qui votent pour le FN, c'est sûrement pas la même chose que le prolo chômeur des aciéries de l'Est qui vote FN. Quoi, c'est sûrement pas pareil. Quoi, vous voyez, on peut dire à vue de nez, c'est probable que c'est pas la même chose. On se trompe pas, on a raison, c'est pas la même chose, ça veut pas dire la même chose. Même si tout ça s'agrège, et créer un phénomène collectif qui a son importance, évidemment. Je ne dis pas, vous voyez, je dis pas ça, mais simplement, bon, c'est intéressant de comprendre de quoi c'est fait, quoi. En particulier si on veut lutter contre. Hein, c'est très important de savoir si on veut lutter contre, mais de quoi c'est fait, cette affaire-là.
Pour vous donner un cas concret qui illustre tout à fait ce que disait Gérard et auquel je souscris complètement, sur la complexité, les raisons qui peuvent pousser à rejoindre le FN. Je me souviens, alors, une de mes enquêtées de mon terrain FN, qui est en gros une petite ville, un bourg en Lorraine. Son profil, je vous résume très brièvement, et vous allez comprendre pourquoi je reviens sur cette enquêtée. Moi, je suis comme vous, hein, quand j'enquête sur le FN, au début, j'ai une appréhension, je pense que je vais enquêter sur des néo-nazis. Logique. Enfin, à la base, je viens d'un monde différent de cet univers-là, en termes politiques et ainsi de suite. Très concrètement, cette personne... Son profil, c'est le suivant. En gros, elle était mère célibataire d'une petite fille. Elle vivait avec, sans emploi, au RSA. Elle vivait avec sa mère handicapée et sa petite fille, dans un logement social de la ville. Elle faisait partie d'une famille tzigane. Et il faut savoir que dans ces petits bourgs, il y a un truc d'interconnaissance très fort. Et sa famille, en gros, de génération, elle appartenait à ce qu'on appelle localement une famille à problème. Ce que les gens appellent de manière peu amène les cassos. Et quand on lui demandait pourquoi elle avait rejoint le Front National, encore une fois, cette femme, de milieu populaire appartenant elle-même à un groupe discriminé, elle disait, en gros, « Eh ben écoutez, ils sont gentils, ils m'ont proposé d'être sur la liste au moment des municipales, c'est des gens très gentils, et avec d'un air très naïf, elle me disait des choses du type « Mais tu devrais venir !» Elle était aussi très contente qu'un monsieur étudiant vienne, et mieux encore chercheur, vienne l'interroger. Elle était très réceptive à ça. Et on comprend très bien, quand on est face à une personne comme ça, pourquoi elle est réceptive à cette logique-là, en fait. C'est la première fois qu'un groupe politique venait vers elle pour lui proposer d'être candidate sur une liste municipale, de passer du statut de dernière des dernières au statut... de candidate sur une liste municipale. Et ce que j'ai ressenti ce jour-là, et j'en parle, il y a une dimension presque un peu émotive, qui suis-je, moi, doctorant, à capital culturel plus, de milieu clairement plus aisé qu'elle, sans être d'un milieu bourgeois, mais localement, parce qu'en plus j'ai des attaches dans ce coin, très clairement, vis-à-vis d'elle, je suis un dominant. quelle légitimité j'aurais, moi, pour juger le processus d'engagement de cette femme ? Et j'aurais eu envie de lui dire, bah, et, enfin, ce que j'avais envie de lui dire d'un point de vue humain, c'était, écoute, camarade, tu te trompes de colère. Va plutôt dans les gentils partis qui portent tes intérêts. Le problème, c'est que les gentils partis, localement, eh ben, y a 10% de classe pop sur la liste, alors qu'ils ont, ils n'auraient jamais l'idée, alors que le FN, il y en a 66% localement de classe pop sur la liste.
C'est vrai que quand les sociologues s'attachent aussi à développer l'idée que c'est plus compliqué, ils sont parfois peu crédibles, hein, puisque le discours raciste est de toute façon très présent dans la société française actuellement, raciste, islamophobe, que beaucoup d'électeurs du FN ou d'autres partis le tiennent. Et donc c'est comme si on faisait les autruches, quoi. Donc je voudrais juste souligner que c'est pas ça le propos, puisque je pense que Gérard, comme Raphaël, comme nous tous, on sait très bien que c'est un discours qui a pris beaucoup d'ampleur et qui a des effets, parce qu'il est aussi porté par des partis, par les médias, par tout un ensemble d'institutions, mais que malgré tout, comme pour les autres les autres discours politiques, les électeurs populaires ou d'autres milieux, mais en particulier ceux-là, vont pas aller reprendre à leur compte sans aucune distance, et parfois c'est effectivement pour d'autres raisons très complexes qui vont voter FN. Donc, ce que montrent les travaux sur le vote FN, c'est que les électeurs qui votent tout le temps FN sont finalement assez rares. La plupart des électeurs s'abstiennent la plupart du temps, de temps en temps votent FN, puis peuvent après voter pour un tout autre parti. Donc ça, c'est quand même qui est maintenant quelque chose de bien connu. Mais la proportion des gens qui votent de temps en temps FN maintenant est extrêmement élevée, et c'est tout à fait inquiétant. Ça concerne aussi un grand nombre d'électeurs ouvriers et employés. Il ne s'agit pas de nier ce fait-là. Moi, je voulais évoquer un autre élément qui ressort d'enquête et qui me semble intéressant aussi quand on réfléchit à la manière de comprendre et de combattre cette montée du vote FN. Je participe actuellement, Gérard aussi, à une enquête où on fait des entretiens assez longs avec des ménages d'ouvriers et d'employés. Donc un nombre quand même considérable d'entre eux ont un jour voté FN, hein, c'est tout à fait impressionnant. Et alors qu'il y a un certain temps, les sociologues disaient les gens n'osent pas trop nous le dire, là tout le monde nous le dit, mais comme la plus grande des banalités, donc c'est quand même quelque chose de frappant. Alors c'est pas des votes récurrents, mais c'est des votes qu'on a pu avoir un jour ou l'autre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que très souvent c'est l'objet de conflits dans les couples ou entre les parents et les enfants. C'est pas du tout quelque chose, c'est banal, parce que le vote, après tout, c'est pas ce qui est le plus important dans la vie sociale pour beaucoup de gens, mais c'est l'objet de conflits, c'est l'objet d'engueulades, de gens qui se comprennent pas entre des conjoints, entre des parents et des enfants. Et ça, c'est quand même le cas de beaucoup des situations. On a rencontré des gens qui nous ont dit moi ça m'arrive de voter FN, ou ça m'est arrivé une fois, et le mari, la femme, le fils, la fille, très choqués par ça, qui essaie de, enfin, qui dit que jamais j'aurais cru que tu ferais ça. Donc c'est pas non plus seulement quelque chose qui choque les autres milieux sociaux, c'est quelque chose qui peut aussi faire l'objet de réactions politiques au sein de familles populaires peu politisées par ailleurs, de réactions très virulentes. Et ça, je pense aussi que c'est quelque chose dont on n'a peut-être pas conscience, et qui est aussi un appui fort pour réfléchir à comment endiguer ce phénomène.
Oui, je voulais me glisser dans une petite question, parce qu'on a l'air de... Pour revenir en fait sur la question de la France insoumise et de ne pas forcément lier la question de la politisation à la question des partis, est-ce qu'on peut... Je n'ai pas de question précise, mais j'avais envie... est-ce qu'on peut parler un peu de Nuit debout, enfin de ce... Je ne sais pas comment appeler ça, de ces mouvements-là, parce qu'en plus, il y a en commun entre le Front National et France insoumise, il y a un point commun qui est la réserve... si je puis dire, de gens très jeunes, qui sont ces deux partis qui ont énormément de, j'allais dire, soupirants, d'adhérents jeunes. C'est des partis politiques très jeunes. Et en parallèle, je n'ai pas une question très précise, je suis désolée, mais sur Nuit debout, parce que quand même, c'est un phénomène de politisation qui a un peu échappé à tout le monde. Et je ne sais pas trop s'il y a eu des études sur l'origine des gens qui fréquentaient... Debout, c'est Nuit, voilà.
Sur Nuit debout, il y a des petites études qui commencent à être faites et qui disent qu'en gros, c'est plus... Il y a une sélection sociale des participants c'est pas, enfin, il n'y a pas 50% d'ouvriers employés, mais c'est effectivement plus large que le parti de gauche lambda, typiquement. Enfin, que les partis de gauche, type. Et après, il y a aussi beaucoup de déclassés de ce qui en ressort. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des processus de déclassement. Et après, par contre, la question, c'est aussi que souvent, ça va être des personnes qui sont en déclassement, mais qui vont travailler comme employés, mais qui vont quand même avoir, ou même comme ouvriers, mais qui vont quand même avoir fait un an de fac. C'est aussi un point... Enfin, le fait d'avoir eu accès à d'autres univers, c'est une grosse différence aussi au sein des classes populaires. Ça aussi, entre ceux qui ont une petite... Enfin, qui ont une certaine éducation et ceux qui sont vraiment très distants vis-à-vis de l'école. C'est un clivage très important pour comprendre qui s'engage et qui ne s'engage pas. Ou alors, qui va plutôt voter à droite et qui va plutôt voter à gauche.
Oui. Bon, j'ai revu un peu ma question parce qu'il y a eu quand même quelques approches au problème syndical. Quoi. J'étais un peu surpris, effectivement, que dans une journée où on parle de politique et classe, on parle seulement de la politique des partis, alors qu'en dehors de la droite, s'il y a 1 million de personnes dans les rues aujourd'hui en France, c'est sûrement pas pour un parti politique, mais c'est effectivement pour une action qu'on pourrait appeler syndicale. Quoi. Voilà. Là-dessus, j'avais deux choses à dire. Vous avez analysé la militance dans les partis, ça serait intéressant de la voir dans les syndicats, comme quelque chose qui vient de la base. Or, je suis complètement convaincu qu'en fait, les stratégies politiques font que les militants dans un parti ou dans un syndicat, c'est des décisions qui sont prises à l'intérieur du syndicat ou du parti. Le fait de laisser une certaine place à quelques classes sociales et donc faire entrer quelques pauvres dans le Front National, c'est décidé en haut. C'est pas parce qu'on n'a pas d'autres militants, c'est parce qu'on veut donner une image populaire, donc on fait entrer dans les militants les classes populaires. Quoi. Voilà. Et donc, j'aimerais savoir pourquoi on n'a pas travaillé sur ça. Mais je prends un exemple très clair, je suis italien. En Italie, le virage de pseudo-parti communiste et de la CGIL s'est fait à peu près au même moment, dans les années 70, quand le Parti communiste a présenté aux élections de 76 exclusivement des gens qui n'étaient pas ouvriers. C'est-à-dire qu'il a pris des cadres, seulement des cadres. Et au niveau de la CGIL, qui est un peu le correspondant de la CGT, à l'intérieur de la CGT, dans les permanents, la CGIL a embauché des étudiants. À partir de 76, a embauché des étudiants. Donc, automatiquement, les choix qu'il a fait par la suite passaient beaucoup mieux à l'intérieur du parti et ça lui permettait de les faire, quoi, du parti ou du syndicat. Quoi. Juste un petit point sur la Fralib. Vous avez parlé à un moment donné, bon, moi aussi j'ai suivi un peu la Fralib, je crois qu'on s'est croisé quelques fois à la Fralib. On avait fait un film, bon, je me rappelle que vous étiez là, vous avez. Voilà. Mais la chose qui m'a surpris à la Fralib, c'est qu'à des situations anormales, on répondait avec des réponses institutionnelles normales. Voilà. Alors qu'on était dans une situation de lutte, une situation illégale, on occupait quand même l'usine et tout ça, mais après on a répondu avec des réponses légales. Je ne parle pas tant de la coopérative, parce que bon, il faut bien créer une structure juridique pour pouvoir vendre et acheter, donc bon, qu'on fasse une coopérative en soi, mais c'est plutôt dans tout le reste. Et je pense par exemple à l'histoire de la formation. On a mis en place des formations normales en utilisant des instruments normaux de gestion et choses comme ça. J'ai une expérience d'un peu plus de 10 ans de suivi de l'autogestion en Argentine et effectivement, eux, toujours donnent des réponses qui ne sont pas légales, qui ne sont pas institutionnelles, qui sont complètement différentes. Et j'ai terminé là sur ça. Bon, actuellement, ils sont en crise, donc j'invite tout le monde à acheter Fralib parce qu'ils sont en crise, ils n'arrivent pas à vendre. Quoi. Voilà. Mais là-dessus, par exemple, ils sont allés sur des réponses normales, alors que 37%, 38% de leurs ventes sont militantes. Et donc, ils n'ont pas mis assez d'attention à la vente militante, qui représente plus de 30%. Voilà.
Alors pour vous répondre sur le premier versant de votre question, parce qu'évidemment le second, je vais laisser à mon voisin le soin de répondre. Vous avez raison de souligner cette question de la gestion, on va dire, de la composition sociologique des organisations. Alors c'est vrai au niveau du Parti communiste, mais c'est aussi vrai dans les syndicats, notamment dans la CGT. En gros, à partir des années 60, ce qui émerge aussi bien au Parti communiste qu'à la CGT, c'est la volonté, par exemple, de faire place à ce qu'on appelait les ingénieurs, techniciens et cadres. Donc, mais plus largement au niveau de la CGT, il y a un raisonnement qui s'installe dans la construction, on va dire, des directions nationales, donc de la commission exécutive, du bureau confédéral, en termes de catégories. Il faut qu'il y ait une représentation de toutes les catégories. Donc, bon, évidemment, ça reste, sans doute plus que dans ce que vous décrivez, ça reste dominé par un monde ouvrier, on va dire, traditionnel. Mais il y a une place croissante pour les ingénieurs, les cadres, une place qui est réservée pour les femmes, avec des effets d'accélération de carrière, parce qu'il y a moins de militantes, et donc quelles que soient les catégories professionnelles. Donc il y a des carrières accélérées pour des militantes femmes, parce qu'il faut assurer une forme de quota, entre guillemets. Et puis c'est la même chose pour les travailleurs immigrés, ou pour quelques militants immigrés, etc. Donc il y a un raisonnement en termes de représentativité, mais qui a des effets on va dire, néfastes, qui conduisent à raisonner en termes de catégories et pas forcément du coup à construire des revendications et des y compris dans les appareils une certaine homogénéité politique. Et puis ça, enfin, ce que vous décrivez aussi sur les étudiants par exemple au sein du Parti communiste dans les années 70, il y a pour le coup une réaction inverse, c'est-à-dire de dire: il y a une instruction très claire qui est énoncée par la direction, qui observe les transformations sociales en train de se faire dans le parti, qui dit: arrêtez d'embaucher comme permanent des étudiants qui arrêtent leurs études, qui ne savent pas trop quoi faire, etc. Il faut arrêter ce processus. Sauf que ce processus, il a donné quelqu'un dont on parlait tout à l'heure, qui est Marie-Georges Buffet, qui est employée à ce moment-là comme ancienne étudiante dans des organisations du parti et qui est devenue secrétaire générale du Parti communiste. Donc ils ont dû arrêter de les embaucher, mais ça n'a pas du tout enrayé un processus vraiment de transformation profonde du personnel militant. Donc vous avez tout à fait raison sur ce point.
Oui, vous avez raison. Bien sûr, ils n'ont pas arrêté d'alterner des démarches légales et illégales, de toute façon, mais leur lutte, ils considéraient leur lutte juste. Ils se posent beaucoup la question, d'ailleurs, dans mon texte: qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui n'est pas moral. Tenir une usine, effectivement, c'est illégal, mais vouloir garder son emploi, c'est quelque chose de moral. Et par ça, ils ont bloqué des autoroutes. Ils ont fait les cons un peu partout, de toute façon, pendant longtemps. J'en profite justement, oui, pour raconter, et puis d'ailleurs, je vais vous quitter après, parce que je vais me préparer un peu, il y a deux, trois choses pour préparer l'espace. Je vous raconte leur actualité, oui, donc ils sont dans leur troisième année de SCOP. Donc ils ont créé une marque de toutes pièces, hein. C'était ça la complexité, la difficulté qu'ils ont, c'est que elle n'est pas connue, et ils n'ont pas de fonds pour la publicité. Enfin là, ils ont fait appel à une appel de fonds récemment, mais... au début, bien sûr qu'ils voulaient garder la marque éléphant, mais ça, Unilever ne leur a pas lâché, parce que c'était partir avec trop de crédit. Donc pour une marque qui a été créée de A à Z, que personne ne connaissait, c'est ce que les résultats qu'ils ont eus depuis 3 ans sont exceptionnels, les ventes sont en constante augmentation. Ça se passait plutôt bien au début, ils ont eu des référencements assez facilement. Et puis maintenant, clairement, depuis quelques temps, beaucoup de gens essaient de leur mettre des bâtons dans les roues. C'est pas toujours clair, c'est pas toujours précis, mais peu dans le patronat, ils sont pas très enclins à ce que ça réussisse forcément. Un peu comme les LIP dans les années 70, à un moment donné, le patronat a décidé d'arrêter, quoi. Enfin, je sais pas si vous connaissez l'histoire du ministre de l'Industrie de Giscard, qui à un moment donné, Renault était nationalisé, et LIP fabriquait les pendules pour les voitures, et à un moment donné, l'État a décidé d'arrêter l'achat de ces pendules, et ça a commencé, LIP a dégringolé comme ça. Donc personne n'a intérêt à ce que ça fonctionne, donc il y a clairement des gens qui leur mettent des bâtons dans les roues, de manière diverse. Le crédit coopératif, beaucoup de problèmes avec eux. On leur a promis un prêt de 400 000 euros, tout semblait nickel au niveau local et tout, puis peu de temps avant l'échéance, d'un coup au niveau national, on leur a dit non, c'est pas possible, donc une croix, tout, voilà. Puis bon, après le truc le plus terrible, c'est que Il y a un directeur de supermarché qui un jour les a appelés en leur disant « Mais écoutez, il y a un responsable d'Unilever qui est venu dans le supermarché, il a acheté tout le stock de 1336, donc vous n'êtes plus dans les rayons. » Et ça, lui, il leur a dit, peut-être il y en a d'autres qui... Enfin voilà, il y a ce type de pression aussi. Voilà, le fait est que les clients se plaignent régulièrement qu'on ne trouve plus leurs produits dans les grandes surfaces, qui se passait un petit peu avant, maintenant c'est de plus en plus difficile. Donc ils ont créé un site, et ça je vous le dis, qui s'appelle Fraliberté, Fraliberté avec THE à la fin, fraliberté.fr. Ils ont mis un système depuis quelques mois de vente en ligne, ce qui leur permet de pallier à tous ces problèmes. Vous pouvez continuer à aller, enfin vous pouvez aller dans les supermarchés pour réclamer la marque 1336, c'est comme ça que certains font. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs, il y a une anecdote où il y a un client qui est allé demander à ce que la marque soit présente dans le supermarché. Le chef de rayon a commandé les boîtes sont arrivées. Et quand les boîtes sont arrivées, le patron du supermarché qui a vu ça, il dit « Non, moi j'en veux pas, c'est des rouges, j'en veux pas », il a renvoyé les boîtes. Et il a même voulu faire payer le transport des boîtes, l'aller-retour des boîtes au Scopti. Donc voilà, ça fait partie des exemples de bâtons dans les roues. Donc vous pouvez, sur Fraliberté, maintenant on peut même acheter au détail. Avant on pouvait acheter des coffrets aussi en soutien. Là. Et depuis, parce que moi mon spectacle était au Festival d'Avignon cet été. Et au milieu du Festival d'Avignon, ils ont fait une conférence de presse. Ils sont décidés à lancer une campagne de socio-financement. Ils ont hésité longtemps à le faire, mais bon, voilà. Le fait est que, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas une petite entreprise, hein. C'est 24 000 m² de terrain, 12 000 m² de bâtiment. Ils étaient 182 à la fermeture. Je connais pas les tonnages, mais actuellement, ils tournent à 30% de l'usine. Ils ont besoin de sortir du volume, donc ils ont accepté, enfin, ils ont... Après, il y a beaucoup de débats sur quel type de produits ils vont mettre en avant, les supermarchés, la vente militante, tout ça, enfin, ça discute beaucoup autour de ça. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Merde, j'ai perdu mon fil, tout d'un coup, on pense à autre chose. Voilà, la partie merci. Donc, il y a sur le site Scopti, parce qu'il y a aussi un site Scopti, un site 1336, vous pouvez aller regarder tous leurs produits. Sur le site Scopti, il y a un petit onglet campagne de sociaux au financement. Vous pouvez envoyer des chèques si vous voulez les soutenir. Donc, parce que oui, ils ont signé des gros contrats avec Carrefour et Auchan pour l'année prochaine pour être MDD, donc pour être la marque Carrefour et Auchan, ça sera eux qui la feront. Après ça c'est tout, hein. ça discute beaucoup autour de ça, mais bon voilà, ça leur permettrait de sortir du volume et de vivre quoi, dans un premier temps. C'est pas à terme ce qu'ils voudraient faire bien sûr, mais ils veulent conserver leurs produits aussi, il y a leurs produits bio, et donc ces gros contrats Auchan et Carrefour leur permettraient l'année prochaine d'atteindre le point d'équilibre. Mais pour ça, pour honorer ces commandes-là, pour honorer ces contrats-là, ils ont besoin de trésorerie et ils sont en manque de trésorerie. C'est beaucoup, beaucoup d'argent à avancer. Donc depuis 14 juillet, ils ont récolté 180 000 euros, ce qui est quand même pas rien. Il y a toujours une forte adhésion, comme c'était à l'époque de la lutte, de gens qui... voilà, il en est question aussi dans le texte de beaucoup, beaucoup de solidarité autour de leur lutte, parce qu'ils représentent quelque part ce que nous, on vit dans tous nos métiers, je pense. C'est les logiques de cette économie absurde qui font que, bah, du jour au lendemain, par exemple, quand ils faisaient un tilleul qui venait de Buis-les-Baronnies, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres qui parlera à tout le monde, et Unilever, Buis-les-Baronnies c'est dans le sud de la Drôme, tout près de Marseille, et Unilever du jour au lendemain a décidé de s'approvisionner en Argentine, parce que ça leur coûtait moins cher. Donc le tilleul d'Argentine arrive en avion, est coupé en Allemagne, conditionné en Pologne, est vendu en France. Ça va perdre d'emplois locaux, le coût écologique, je ne vous raconte pas. Et il n'y a que l'actionnaire qui gagne dans l'histoire, hein, parce que le consommateur, il paye le même prix, et la qualité, n'en parlons pas. Il y a l'aromatisation chimique aussi qui se passe, parce que j'en parle beaucoup, je commence mon travail sur le rapport qu'ils ont au travail, c'est la chose la plus importante. Ils étaient très très fiers de faire eux-mêmes l'aromatisation naturelle avec et le mec me raconte le procédé très 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 technique de comment il chauffe un peu les feuilles, comment il met l'arôme. Il y a un dosage de presque de l'artisanat de manière industrielle, mais c'est voilà, c'est C'est une qualification, enfin, il y a une formation pour y arriver. Et puis il passe du jour. Donc il est hyper fier de ça. Ils savent que dans le monde, ils sont même quasiment les seuls à le faire de manière industrielle. Et du jour au lendemain, ils passent à l'aromatisation chimique où ils n'ont plus qu'à insérer des petites billes synthétiques qui sont mises dans les sachets et qui, au contact de l'eau chaude, vont libérer l'arôme et vont libérer la saveur. Donc le rapport au travail, comme dit un des ouvriers, le plaisir, quand tu fais de la merde, tu le sais. Hein. Donc voilà, ça change ton rapport au travail. Voilà. Après, les techniques de ces multinationales, parce que je raconte cette petite anecdote, elle n'est pas dans le texte, je ne l'ai pas gardé ça là non plus, mais dans les boîtes en fer de thé en vrac, quand ils sont passés à l'aromatisation chimique, il y a eu des baisses, il y a eu des chutes de vente, parce que bah, quand le client ouvrait la boîte, ça ne sentait rien, vu que ces petites billes, elles diffusent leur arôme uniquement au contact de l'eau chaude. Donc chute des ventes. Donc, qu'est-ce que te fait Unilever? Ils ont trouvé la parade, ils ont tapissé la boîte d'enfer d'un produit chimique qui diffuse l'arôme. Et quand le mec qui me raconte ça, qui était un des mecs de l'aromatisation, l'aromatisation étant un lieu un peu à part du reste de l'usine, et on l'avait viré de l'aromatisation parce qu'à chaque fois qu'il y avait un changement dans le conditionnement, dans ce qu'il faisait voilà, techniquement, lui il râlait, il montait voilà, et au bout d'un moment il lui dit écoute, c'est mieux que t'ailles au conditionnement, ça va être plus simple. Donc il avait été viré et donc il a redécouvert l'aromatisation quand il y a eu la lutte et il a trouvé les boîtes de ces produits, les bidons avec lesquels il tapissait les boîtes en fer. Il y avait une tête de mort dessus, après c'est un poison. C'est toujours pareil, hein, quand il y a un infinitésimal, c'est soi-disant pas dangereux pour l'homme. Mais enfin voilà, c'est ces logiques-là que tu es obligé d'appliquer et son rapport au travail. Donc voilà, je me suis un peu perdu sur tout ça, mais... voilà, je crois que c'est ça. Donc vous pouvez envoyer les chèques. Non, mais après, ils ont beaucoup discuté à l'intérieur parce que c'est compliqué comme décision, mais c'est ce qu'ils ont fait et ils en sont là, en tout cas. Je me permets de vous quitter. Je vous remercie.
Merci, Philippe.
Ah, une dernière chose. Donc, il y a un livre qui a été édité aux éditions d'Ores et Déjà. Si jamais ça... Voilà. Sachez qu'à la fin des représentations, je vends du thé et je vends mes livres.
Bon bah à tout à l'heure, on sera là. Et on peut prendre encore un quart d'heure pour discuter encore si vous avez des questions supplémentaires.
Ouais, moi j'ai le micro. Je ne sais pas si ça va être très précis comme question, mais comme un des sujets que vous avez abordé, c'était la question de la politisation des classes populaires. C'était un peu pour aller dans le même sens que madame qui a posé sa question tout à l'heure. Est-ce que le fait de se concentrer sur la forme parti, même association ou syndicat, au détriment de ce que Raphaël a appelé tout à l'heure les mobilisations immédiates, alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais est-ce que ce n'est pas aussi se concentrer sur... comment est-ce qu'on peut faire pour regarder ces mobilisations qui se situent complètement en dehors du champ politique dominant, en fait, où les questions, je vais prendre un exemple parce que c'est la mode, d'une certaine manière en ce moment, en tout cas, justement, ça gagne le champ politique dominant, qui est la question des violences policières, par exemple, qui sont des choses qui sont longtemps des luttes, qui sont longtemps organisées complètement en dehors des partis et qui longtemps étaient portées par des catégories vraiment populaires de la population, dans ce que j'en sais. Donc comment est-ce qu'on fait pour... et est-ce que c'est pas dans ces espaces-là que se fait aussi la politisation vraiment directe et importante et première de beaucoup d'habitants de ces quartiers et qu'après qu'ils rejoignent un parti ou pas, on s'en fout en fait. Voilà.
Je veux bien dire un mot. L'exemple que vous prenez, c'est pas n'importe quel exemple quand même, parce que pour le coup, on a affaire à une mobilisation contre les violences d'État. C'est une mobilisation qui certes se fait presque essentiellement en dehors des partis, mais qui a des mots d'ordre politique très forts et très clairs. Et donc c'est une lutte qui, heureusement, c'est un peu étendu, mais qui reste assez minoritaire dans la société en général, mais dans les classes populaires aussi. Donc cet exemple-là, je pense qu'il est, on peut plutôt le prendre comme exemple d'une cause qui pourrait, pour le coup, s'élargir plus facilement au sein du monde politique tel qu'il est structuré, parce qu'elle a des objectifs clairement politique, même s'il ne s'agit pas d'objectifs électoraux, on est bien d'accord. Mais, et là, pour le coup, ben, je pense qu'elle a une certaine audience au-delà des militants locaux qui la portent. Ce qu'on peut avoir en tête aussi, c'est d'autres formes de... Alors, les termes sont multiples et ils ne sont pas forcément toujours ajustés, d'engagement, de militantisme, d'investissement, qui sont fréquents en milieu populaire et qu'on ne voit pas et qui n'ont pas de débouchés politiques au sens institutionnel du terme, qui sont tout un ensemble de formes d'actions autour de questions concrètes ou immédiates qui concernent le cadre de vie dans des quartiers, dans des villages, la vie, je sais pas, la sociabilité aussi. Et ça peut être des choses qui apparemment ne sont pas directement politiques pour, autour du sport, autour de l'obtention d'équipements dans un quartier. Et ces formes d'engagement ou de bénévolat, où elles sont beaucoup plus fréquentes que ce qu'on pense et elles sont peu visibles. Mais c'est différent des violences policières, je pense, que du coup des mobilisations contre les violences policières. Parce que pour le coup, c'est vraiment le micro-local, c'est lié à du quotidien. Ces mobilisations-là, pendant longtemps, elles ont eu des débouchés avec une plus grande visibilité. Qu'elles n'ont plus forcément aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas forcément les relais, parce que justement il n'y a pas d'intermédiaire non plus sur ces questions-là. Et pour tout ce qui se passe dans les quartiers populaires des grandes villes, je reviens à cette idée tout à l'heure, mais il y a aussi des facteurs structurels très forts qui minent ces formes de mobilisation. Aujourd'hui, dans les quartiers HLM ou des quartiers de l'habitat social en général, il y a un turnover extrêmement élevé dans la population. Là où avant il y avait des noyaux stables d'habitants qui pouvaient se structurer, porter des revendications communes, des luttes même locales, mais qui avaient une visibilité locale importante, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de quartiers où d'une année sur l'autre il y a 40% de la population qui va changer parce que la gestion du parc social, c'est ça, ça tourne. Et donc ça a aussi des effets très très forts sur la pérennité de ce type d'engagement. Alors je ne sais pas si c'est ça que vous aviez tout à fait en tête, mais je pense que ce type de mobilisation qui ne sont pas nouvelles aussi sont affaiblies. Enfin, c'est aussi des éléments importants, je pense, du tableau.
Et pour rebondir aussi sur ce que disait Yasmine au début, et un peu sur votre question, enfin, je pense que faut pas non plus projeter la situation d'aujourd'hui comme nouvelle. Ce qui a changé, je pense, il y avait par le passé, même si sous une forme très unifiée, tout le monde allait dans le même sens au sein d'un certain nombre d'organisations hégémoniques, en réalité, à l'intérieur de ces organisations, il y avait finalement des gens qui étaient intéressés à telle question, à tel engagement. En gros, on a une impression d'atomisation aujourd'hui, chacun étant sur sa mobilisation spécifique et ne voulant pas aller au-delà. Mais en fait, ces formes d'engagement existaient avant, mais elles étaient, on va dire, regroupées ou, pour prendre un très gros mot, subsumées dans certaines organisations. Et voilà, et parce que, en fait, cette question avait antérieurement été l'objet aussi de discussions, de débats et aussi de luttes. C'est-à-dire qu'il y a, au début du XXe siècle et à la fin du XIXe, des débats très forts pour savoir qu'est-ce que c'est le syndicat, est-ce que ça inclut la question du logement, ou est-ce qu'il faut que ce soit autonome. Et vous avez des vrais affrontements dans le syndicalisme révolutionnaire pour dire non, on veut un syndicat des locataires. C'est le camarade de Georges Cochon qui dit non, il y a un syndicat des locataires, mais qui est en fait battu par la construction d'un pôle, on va dire, syndical politique très fort, socialiste à l'époque et syndicaliste révolutionnaire, pour dire non, ce qui compte, c'est le pôle politique et économique, quoi, syndical au sens lutte économique. Donc on regroupe tout ça, mais on sait que c'est important, mais ça va être mis dans un second plan, mais il y a quand même des gens qui continuent à se mobiliser spécifiquement sur cette question. Et les différentes formes de mobilisation, en gros, c'est une manière de dire que, et aussi c'est quelque chose qu'évoquait tout à l'heure Raphaël, c'est pas parce qu'avant il y avait des gens qui étaient dans des organisations syndicales ou politiques assez fortes et hégémoniques qu'ils étaient tous... ils y étaient tous pour les mêmes raisons, de la même façon et avec une adhésion totale au projet. Ça rejoint aussi la discussion qu'on a eue sur le Front National et sur les adhésions au parti en général. On n'adhère pas, quelle que soit l'organisation, parce qu'on connaît de la première à la dernière ligne chaque virgule du parti et pour le faire appliquer. Ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas comme ça, jamais. Et chacun a une forme d'engagement, enfin, on pourrait dire, pour aller vite, chacun voit midi à sa porte, mais c'est un peu ça. Et ce qui a changé, c'est la manière de configurer toutes ces formes d'engagement, de les rassembler ou pas, je pense.
Bonsoir, je voudrais faire une remarque. J'ai été quand même choqué d'entendre que l'attitude des classes populaires, enfin le vote des classes populaires pour le Front National aurait quelque chose de moral. Je veux dire, même si on dit ça au second degré, ça va loin et ça va, à mon sens, beaucoup trop loin. Pour se plaindre de ce que les gens touchent des bénéfices sociaux auxquels ils n'ont pas droit, parler de morale à propos de ça, on pourrait parler de ressentiment tout aussi bien. Je veux dire, ressentiment, ce n'est pas forcément un bon terme, mais simplement, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de savoir quelle est l'idéologie implicite des électeurs du Front National et précisément des électeurs populaires, et que certainement c'est pas pour tout le monde la même, mais certainement ce serait un grand outil pour lutter contre cette idéologie que de savoir la décrire en termes en termes d'idéologie. Quelles sont les idées? Qu'est-ce qu'on peut isoler? Quels sont les symptômes?
Essayer de dire un mot. Idéologie, je ne suis pas sûr, quoi, voyez-vous. Non, moi, je ne souscrirais pas à ça. J'ai du mal à doter ces électeurs populaires, c'est de ça dont je parlais, hein, des électeurs populaires qui ont voté pour le FN, de gens dotés d'une idéologie, c'est-à-dire au sens d'un ensemble constitué de visions du monde, d'interprétations du monde, etc. C'est leur donner beaucoup, quoi, à mon avis. Et non, je dirais pas, ils pensent pas rien. Hein. Ils ont un point de vue sur tel truc, sur tel truc, sur tel truc. Je sais pas, moi, je peux vous donner un exemple que j'ai en tête parce que je m'en occupe en ce moment. Une femme qui dit j'aurais pu me déclarer mère célibataire. Hein, voilà, si on n'était pas mariés. Je l'ai jamais fait parce que on vivait en couple. Mon mec, il avait un CDI, etc. J'en connais, pas comme moi, quoi. Bon, voilà. Et pourquoi il y en a qui font ça? C'est une condamnation morale de ceux qui sont à ses yeux, et après tout, quoi penser d'autre, quoi, hein, de ceux qui justement profitent d'une situation en mentant, en faisant des fausses déclarations pour. Voilà. Bon, donc elle s'en prend à ça. Alors quand elle s'en prend à ça, on peut se demander qu'est-ce qu'elle fait, quoi. Est-ce qu'elle condamne ceux auxquels elle s'en prend, ou bien est-ce que en même temps, je crois que c'est les deux d'ailleurs, en même temps, elle se rehausse en disant moi je fais pas des trucs comme ça, moi je suis vraiment, vous voyez, c'est le modèle pauvre mais honnête, ça fait partie, je dirais pas de l'idéologie populaire basique, mais d'une espèce de, je sais pas comment dire, de sens commun, d'éthos moral, quoi, voilà, bon, elle revendique quoi? Un truc très très banal, au fond, vous voyez, je l'appelle moral parce que je vois pas comment je pourrais appeler ça autrement, enfin, vous voyez, c'est un argument de type moral, quoi, ou de dire, écoutez, les mômes d'à côté, hein, bon, il y a un pimp qui vous aiderait à porter votre sac, ou il vous claque la porte sur le nez, où ils sont franchement mal polis, là, c'est pas de la morale, mais enfin, ça ressemble, c'est bien élever ses enfants, mal élever ses enfants, alors faut voir les parents comment ils sont, c'est droit à ce type-là de discours, c'est un discours, je sais pas comment le qualifier autrement que moral, alors non pas au sens d'une morale constituée, organisée, au sens de, je sais pas quoi, d'un corpus organisé de préceptes moraux, non, c'est un sens commun moral, quoi, c'est dans ce sens-là, une espèce d'un jugement que je ne sais pas appeler autrement que moral, mais qui n'est pas formalisé, qui est de l'ordre du ça va de soi. Et finalement, ce qui me semble important là-dedans, je crois, hein, c'est une protestation au nom de cette une forme d'éthos, comme on l'appelait autrement, vous voyez, d'un sens commun moral, quoi, qui s'énonce là-dedans, et donc qui disent, il y en a marre qu'il y en ait des qui aient le droit de faire ça, alors que moi, j'ai pas le droit. Quoi, voilà. voilà, vous voyez, je veux pas. Alors quand je dis ça, j'ai l'air de plaider pour. Je dis pas qu'elle fait bien de voter Front National. Hein, non, bon, voilà, je pense que pourrait faire. Ça serait mieux que voilà qu'elle vote pour la France Insoumise aujourd'hui, quoi. Pour dire ça, oui, franchement, ça vaudrait mieux, quoi. Bon, on peut faire ce qu'on peut. Et d'ailleurs, ça devrait pas être impossible. À mon avis, je pense que ça devrait. C'est même pas. Oui, alors ce qui me semble. J'en ai. Je vais au-delà de ce que je disais. C'est si on se fonde là-dessus. Alors, ce n'est pas franchement impossible. Voilà, ce n'est pas franchement impossible. Il faut réfléchir à comment c'est possible, de, vous voyez, comment ce serait possible de lui faire comprendre que, finalement, dans le sens de ses intérêts matériels, bien sûr, mais aussi moraux, elle pourrait faire autrement. Voilà. Donc là, il faut aussi se préoccuper de ce genre de questions. Ça, je disais, vous voyez, c'est comment combattre le Front National, ben, ça peut servir à ça, je pense. Hein. Vous voyez, c'est-à-dire de comprendre les ressorts de certains et pour leur indiquer comment et pourquoi ils se trompent d'adresse. Quoi. Voilà. Je pense que vous voyez, c'est dans ce sens-là. Quoi. Mais je ne crois pas, je pense que c'est une projection intellectualiste que de prêter aux gens, vous voyez, une idéologie constituée comme ça. Bon, bah non, c'est, vous voyez, c'est, au mieux c'est les intellos qui ont ça pour une idéologie, quoi. Mais les gens ordinaires, non, quoi, bon, voilà, quoi.
Moi, je prendrais la question autrement, en fait, je vais y aller très rapidement. En gros, le paradoxe, j'ai l'impression, en milieu populaire, c'est qu'il y a, de manière très générale, le sentiment, il y a un rejet très fort de la société telle qu'elle est. Globalement, l'idée que tout n'est pas, enfin que les élites ne sont pas vertueuses, que, enfin, que le mérite, ça ne marche pas comme ça, et ainsi de suite. Enfin, il y a peu d'adhésion à l'ordre dominant en tant que tel. Mais par contre, ça cohabite, ce côté très critique, et là je parle toute sensibilité politique confondue, ça cohabite avec le côté « il n'y a pas d'autre société, il n'y a pas d'autre monde ». Et du coup, comme il n'y a pas d'autre monde, il n'y a pas de projet de société différent, c'est comme ça. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. On aimerait bien que ça soit différemment, mais ça ne peut pas être autrement. Et du coup, quand on a vu qu'on a cette cohabitation de deux choses très paradoxales, on vit dans un monde de merde, pour le dire de vite, mais on ne peut rien y faire, et ben ça va plutôt nous pousser les gens vers des solutions de repli et vers des solutions bah, taper sur le voisin et ainsi de suite. Et du coup, bah, c'est un peu connecté pour le coup à la question précédente. Le gros débat épineux, c'est comment faire pour recréer un enthousiasme pour des perspectives de justice sociale et ainsi de suite. Et là-dessus, bah, j'en ai aucune idée personnellement. Enfin, ça peut passer par des initiatives un peu concrètes, immédiates, les associations, les Fralib, et en même temps, on voit bien que c'est pas facile parce qu'il y a des blocages au-dessus. Et dans ce cas-là, pour s'occuper des blocages au-dessus, il faut s'occuper de la sphère politique. Mais on voit bien que dans la sphère politique, ben, y a des bons gros blocages aussi. Du coup, ben, c'est un peu cette tension-là. Comment on arrive à créer un enthousiasme autour d'un projet, enfin, pour moi, je pense que la question de l'enthousiasme, elle est déterminante. Il peut y avoir une autre société.
Magnifique mot de la fin. Je vous remercie tous, toute la salle et les intervenants et intervenantes. Et merci à la Maison des Métallos.